12h, 13h30, les midis de culture. Géraldine Mosna-Savoie, Nicolas Herbeau.
Deux artistes américains sont en débat ce midi car deux expositions leur sont consacrées à Paris avec peut-être un point commun, celui du regard. D'abord le peintre Robert Reimann, dont la présentation au musée de l'Orangerie constitue une première depuis plus de 40 ans en France. Ensuite Ouidji à la fondation Henri Cartier-Bresson qui veut mettre en avant une autre facette du photographe qui est très connu pour ses clichés des bas-fonds new-yorkais des années 30 et 40.
Et on en parle avec vous Corinne Rondeau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférences en esthétique et sciences de l'art à l'université de Nîmes et critique d'art. Et on en parle avec vous Stéphane Coréard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes critique et commissaire d'exposition, directeur artistique de la galerie Love & Co à Paris. Bienvenue à tous les deux dans les Midis de Culture.
Direction pour commencer le musée de l'Orangerie donc, pour voir cette exposition Robert Reimann, le regard en acte. C'est une histoire qui ressemble à un conte. Robert Reimann aurait dû être musicien, né à Nashville, Tennessee. Il suit des études de musique et joue du saxophone ténor. C'est d'ailleurs la musique et le jazz qui l'amènent à New York en 1952. Pour vivre là, il doit bien sûr trouver un job. Il devient gardien de salle au MoMA, le musée d'art moderne. Débute alors son éducation artistique par le regard, par la pratique de la peinture et par les rencontres, notamment avec Mark Rothko qui expose au MoMA en 1961. C'est l'année du déclic. Il se consacre désormais à temps plein à sa vie de peintre. Rapidement, il choisit une forme, le carré, ni portrait ni paysage. Il choisit aussi une couleur, le blanc.
White as a color is not really an interest of mine so much. It's what this neutral paint can make visible.
La couleur blanche possède une expression neutre, dit Reimann. Mais en réalité, difficile de parler de peinture monochrome car elles ne sont jamais totalement blanches. Et puisque Reimann porte une attention particulière aux conditions de présentation de son œuvre, posons immédiatement la question des conditions de présentation de ses œuvres au musée de l'Orangerie. Avez-vous, Corinne Rondeau, été convaincue par cette exposition, la première depuis plus de 40 ans consacrée à cet artiste par un musée public en France?
Je pourrais répondre très vite, non. Je dirais que le travail de Reimann impose tellement de l'espace et, comme il le dit, de recueillement, que cette exposition pêche par excès. Il n'y a pas assez d'espace, que ce soit positif ou négatif, il n'y a pas assez d'espace, il y a trop d'informations, il y a trop de jeux graphiques, il y a vraiment trop d'œuvres, surtout. Autrement dit, on est vraiment perturbé et dans l'interférence en permanence, c'est-à-dire tout le contraire que de ce que souhaitait Reimann, dont vous avez rappelé un des termes importants chez lui, la neutralité. Donc autrement dit, on est face à une exposition extrêmement didactique, où toutes les salles sont en vous annoncent la définition de sa salle, donc surface, limite, lumière, etc. C'est avec un graphisme en relief, qui joue donc dans l'espace de l'accrochage, la cimaise, dont on sait que le mur est aussi important que les œuvres que fait Reimann. Autrement dit, on est dans des interférences d'ombre qui sont suggérées en plus des ombres voulues par l'éclairage des tableaux, la manière dont ils sont accrochés, les bordures qui peuvent être à la fois aussi fines que de l'aluminium, puisque c'est un des supports, ou avec des cadres beaucoup plus importants où on trouve effectivement de la peinture, parce que ça compte autant que la signature de Reimann. Donc en fait, on est à l'opposé des œuvres et de l'art de Reimann. Et donc, on est dans une exposition à la fois didactique et qui relève d'une platitude descriptive. Et quand vous êtes dans une platitude descriptive avec Reimann, vous êtes tout sauf avec Reimann. Autrement dit, il y a un vrai problème face à une œuvre qui défait quelque chose du langage. Que dire? Comment le dire? C'est plutôt une œuvre qui vous dit « taisez-vous et regardez ». Et là, vous avez de l'information en permanence. Autrement dit, entre un peintre qui dit « ma peinture ne représente rien », elle l'est. Voilà. Il y a une trame du réel, on pourrait dire. Et à côté, vous avez une exposition qui est en train de dire « on va vous expliquer ».
Est-ce que vous avez eu le même sentiment, Stéphane Coriard?
Oui, alors d'abord, effectivement, ça fait pas tout à fait 40 ans qu'on n'a pas vu d'exposition de Reimann.
De cette ampleur dans un
à Paris, puisqu'il y avait l'exposition organisée par Feu Claude Berry, le cinéaste et producteur, dans son espace Rennes, rue de Lille à Paris, qui était, dans mon souvenir, sublime, même si c'est pas l'artiste ou le type de travail, effectivement, que j'aime par goût. J'allais quand même avec curiosité voir cette exposition qui a pour mérite d'être profondément anachronique et d'aller d'une certaine manière à rebours de l'époque. D'ailleurs, je crois que il n'a pas été possible d'organiser une rétrospective de Reimann aux États-Unis parce que c'est trop loin des préoccupations actuelles qui sont plutôt pour un art élargi aux questions identitaires, aux questions politiques, aux questions d'inclusion qui sont évidemment totalement absentes de l'art de Reimann, je dirais par définition, car c'est un art qu'on pourrait définir en deux mots, c'est un art minimaliste, hein, donc c'est un art effectivement qui s'en tient, comme vous l'avez dit, à un format et une couleur unique, idéaux, neutre, qui demande le moins de choix possible, hein, le carré, vous l'avez dit, c'est une seule dimension. Donc c'est moins de choix, et le blanc, c'est aussi un non-choix. C'est aussi un travail formaliste, qui là se raccroche à un moment particulier de l'histoire de l'art, qui s'inspire de la théorie de l'art pour l'art, et qui aux États-Unis, à partir des années 40, avec un critique qui s'appelait Clement Greenberg, a incité les artistes à se concentrer sur l'objet et les qualités matérielles de l'objet pictural, prenant même une vérité des matériaux. C'est ce que dit Reimann d'ailleurs, il dit que son premier mouvement ça a été d'aller acheter des pinceaux de la peinture et d'essayer de voir comment ça pouvait fonctionner. Et il dit « Je me suis amusé, j'ai peint sans avoir rien de spécial en tête, je découvrais simplement la façon dont fonctionnait la peinture, les couleurs épaisses et fines, les pinceaux, les traces ». C'est ce que montre l'exposition effectivement à travers 47 œuvres qui ont été peintes entre 1958 et 2010, donc c'est-à-dire effectivement le début de cette période abstraite. Là, on y reviendra, je pense. Je regrette que, contrairement à Rothko, à la Fondation Vuitton, on n'ait pas les œuvres figuratives qui sont pour certaines dans le catalogue de l'exposition et qui, je trouve, sont évidemment intéressantes. Là, l'exposition fait le choix de se concentrer, je dirais, à la période blanche de Reimann, mais qui est évidemment le...
Il y a une première œuvre au début où il y a un peu de couleur déjà remplacée, enfin, en tout cas, recouverte de blanc. Et ensuite, on est dans ces œuvres carrées et blanches.
Absolument. Alors, ce dont on se rend compte dans l'exposition, c'est que très vite, pour concentrer l'attention du spectateur effectivement sur ses gestes, ses matières, ses lumières, ses espaces, Reimann évacue très vite tout ce qui n'est pas lui finalement d'une certaine manière. On le voit d'ailleurs dans l'exposition et dans le catalogue, dans son atelier par exemple, il y a un mur entier couvert de reproductions de ses propres œuvres. C'est la première fois que je vois ça dans les ateliers d'artistes. En général, il y a au contraire des cartes postales du passé, d'amis, enfin d'autres œuvres qui les nourrissent. Là, il se nourrit de son propre travail. Il refuse d'ailleurs autant qu'il peut les expositions collectives, il refuse les confrontations, les dialogues, il veut que son travail soit montré en référence à lui-même. Très vite, je crois que c'est Buren qui le raconte dans le catalogue, il est échaudé du fait que des propriétaires de tableaux puissent les encadrer, les mettre sous plexiglas, etc. Donc c'est pour ça qu'il commence à intégrer le système d'accrochage à l'intérieur de son œuvre lui-même. Et enfin, le seul motif finalement qui vient parfois ponctuer ses œuvres, c'est sa propre signature. C'est donc une œuvre totalement autoréférentielle, tautologique, totalitaire, dans le sens que si on en accepte les présupposés, c'est-à-dire que si la peinture c'est ça, eh ben il est le meilleur, mais si on les refuse, on peut rester très à l'écart de ce travail.
Corinne Rondeau, il parle d'une expérience visuelle. Il n'explique pas ce qu'il peint. Il y a d'ailleurs pas de titre sur les œuvres. C'est au spectateur, c'est d'où ce titre, le regard en acte, de vivre sa propre expérience face à ces différentes œuvres. Et on peut peut-être voir effectivement aussi l'évolution au fil des décennies.
Oui, moi je dirais que cette exposition, je l'ai vue, il y avait beaucoup de monde, ce qui était très étonnant. En même temps, j'étais très curieuse d'aller voir cette exposition, justement, parce que moi j'en avais vu il y a très longtemps, notamment parce qu'il y en a un qui est dans la collection Lambert, qui est d'ailleurs accroché ici à Paris. Et j'avais un rapport assez minimal, je dirais, de ce que j'avais vu. Et c'est vrai qu'il y a une manière d'être face à certains formats lorsqu'ils passe à des attaches, c'est autre chose. Mais lorsque vous êtes sur des petits formats carrément iconiques, l'icône, on peut dire byzantine, vous êtes dans un rapport de l'œuvre à vous. C'est vraiment une manière de dire on est isolé avec la chose. Donc moi j'ai un rapport à ce type d'œuvre qui me paraît tout à fait stimulante pour moi. C'est-à-dire, il faut rester. C'est comme une peinture qui serait centripète. Elle vous cale devant elle, puisque le carré répète aussi la position d'inertie. On regarde, on est cadré par le tableau lui-même. Donc, on a cette manière d'être face à cette chose, qui est une peinture très lente, avec des croisillons ou des courbures. Mais c'est une peinture qui est lente. Et ça vient à votre regard. C'est-à-dire, il y a une lenteur. Moi, ce qui m'intéresse, c'était aussi de me dire qu'est-ce qu'on peut voir aujourd'hui dans des flux actuels, qu'est-ce que fait l'exposition Reimann dans sa lenteur, dans sa dimension statique. Donc, je trouve que, avec les défauts que j'ai vus dans l'exposition, je n'ai pas pu faire d'expérience. Ce qu'on peut quand même rappeler, puisque vous parlez du regard, c'est qu'il quand même, il est gardien de musée au MoMA, et c'est là qu'il va passer, comme vous le disiez, de la musique à la peinture. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il a vraiment été arrêté par des impressionnistes, on va dire de Monet, et après post-impressionniste, on va dire Matisse. Mais si vous voulez, l'impression que j'ai du point de vue du regard de Reimann, c'est comme si quelqu'un s'était tellement intéressé de manière didactique à la peinture, c'est-à-dire pas d'histoire de l'art, pas de discours sur l'art, pas de d'où ça vient, pourquoi c'est fait, quelles sont les significations, quelles sont les lectures qu'on peut en faire. C'est un regard tout à fait naïf, entre guillemets, puisqu'on est toujours empreint d'une culture, qui est allé au plus près. On imagine un type toute la journée en train d'aller au plus près des tableaux et regarder. Eh bien, quand vous êtes face à un Reimann, de certaines périodes où vous avez des trames comme ça qui se font, vous avez l'impression qu'il a vu un détail et qu'il a grossi ce détail. Autrement dit, je pourrais dire que pour moi, Reimann, c'est comme un détail d'un Monet qu'il a mis sur un format carré, beaucoup plus grand. Et donc, d'un coup, il vous met au plus près d'une sensibilité de la touche de la peinture. C'est pas la sensibilité de mon goût, c'est comment ça vibre, y compris dans le blanc, après avoir fait lui-même cette expérience de la peinture dans un rapprochement. Vous savez, cette manière microscopique avec laquelle vous allez regarder la peinture, la touche, comment elle est faite, qu'est-ce qu'elle fait à votre œil. Et je trouve qu'il y a une sorte d'élément profane, contrairement à la dimension totalitaire évoquée pour mon ami Stéphane. Je trouve qu'il y a cette, si on s'arrête, il y a peut-être aussi tout ce rapport de qu'est-ce que je vois de cette touche historique que j'ai oubliée et qui vient me le rappeler, comme d'ailleurs à la fin de l'exposition.
Voilà, j'allais le dire, il y a trois Monets qui sont installés à la fin de l'exposition, même si Reimann, vous l'avez dit Stéphane, n'aime pas les exposer en regard, en dialogue avec d'autres œuvres, trois cathédrales, et d'ailleurs Reimann dit lui-même, le point commun entre lui et Monet, c'est justement, il dit lui, Monet a peint des meules qui se ressemblent toutes, effectivement. Et ben moi, j'ai fait la même chose, donc on retrouve peut-être l'idée du détail.
Oui, juste pour finir, parce qu'en fait, c'est toujours du blanc. Mais en fait, qu'est-ce qui est visible? Comment il attaque le visible, Reimann? C'est juste à apprendre à différencier l'indifférenciable, c'est-à-dire comment il y a de la différenciation à minima dans tout le visible. Et son travail, ce n'est que ça.
Des œuvres qui se ressemblent, mais qui sont donc uniques.
Oui, pour moi, justement, cette dernière salle où il y a 8 tableaux ultimes de Reimann des années 2010 et 3 cathédrales de Rouen de Monet cristallise, à mon avis, tout le contresens que j'ai ressenti dans l'exposition. Parce qu'effectivement, d'abord, lui parle de meules. Ça aurait peut-être été plus intéressant, notamment des meules avec un effet de neige. Ça aurait été assez amusant de voir des monochromes blancs de Monet, parce qu'il y en a, des effets de brouillard ou des effets de neige, d'une part. Et d'autre part, parce que c'est les tableaux les plus expressifs, les plus démonstratifs, je dirais. À tel point qu'on se demande à quel point ils sont terminés, puisque c'est ceux qui laissent sur les bords les morceaux de couleurs les plus puissants, les plus forts, des vermillons, des verts foncés. Et puis surtout, contrairement au tableau précédent où parfois la marge du tableau, la limite se voit comme ça, mais qui reste un carré, là, c'est des triangles, en fait, et donc ça crée une forme de perspective dans le tableau, et donc une forme d'illusionnisme. Et donc, pour moi, c'est un double malentendu, finalement, parce que l'exposition réunit les deux artistes, finalement, par l'image, si on peut dire, par l'illusionnisme, et par cette couleur soutenue, qui sont justement deux des dimensions que Reimann a cherché à évacuer dans tout son travail.
Un dernier mot sur l'abstraction, parce qu'on n'a pas, on a dit qu'on en parlerait. On a parlé de monochrome. Est-ce qu'on est face à quelque chose d'abstrait, ou alors du coup il faut se laisser pénétrer peut-être par chaque carré et trouver soi-même ce qu'on veut y voir aussi, Corinne Rondeau?
Moi je dirais qu'il faut simplement faire comme il a cherché. Il disait que c'était un peintre réaliste, donc il est allé chercher avec des choses qui étaient purement matérialiste ou matière. Enfin, non, mais je veux dire, le coup de pinceau.
Oui, mais
je veux dire,
justement, pardon, Corinne, mais c'est du matérialisme sans politique.
Oui.
Et là, c'est très intéressant, justement, de le voir, de regarder le travail de Reimann en comparaison avec son équivalent français qui vient quelques années après, qui est Support Surface, qui est une déconstruction structuraliste du tableau, mais là, carrément marxiste. Et qui va, justement, du côté des matériaux, par exemple, domestiques, prolétaires. Il y a un refus. Enfin, pardon, non, voilà, je voulais...
Allez-y,
terminez votre phrase, parce qu'on arrive à la fin.
Justement, cette question est totalement avec lui. On est comme dans le free jazz, qui finalement s'opposait, justement, et lui était fou de free jazz, ce qui n'est absolument pas étonnant, puisque le free jazz combattait les tenants du contextualisme, qui disait que, justement, dans le jazz était l'expression même du mode de vie et des revendications des Afro-Américains. Et le free jazz, au contraire, c'était des formalistes qui, eux, prenaient la musique pour elle-même, finalement, pour la forme, en évacuant tout contexte culturel, historique ou politique.
Je m'inscris un faux, cher Stéphane. Non, mais pour moi, c'est un corps. Je veux dire, aucun artiste n'a travaillé autant avec sa main pour la peinture. Ce qui vient à la fin, c'est une épaisseur. Enfin, il y a simplicité, dépouillement, retour de l'épaisseur avec les derniers qu'on a vus. Et je trouve que c'est le retour d'un corps. Et là, pour le coup, c'est pas du tout du marxisme, évidemment. Mais on peut pas comparer ce qui est incomparable.
Robert Reimann, Le regard en axe, c'est jusqu'au 1er juillet au musée de l'Orangerie. Le catalogue, coédition Musée d'Orsay et de l'Orangerie Actes Sud, est disponible.
Jusqu'à 13h30, les midis de culture. Nicolas Herbeau, Géraldine Mosna-Savoie.
Et on parle maintenant de Ouija, autopsie du spectacle. C'est jusqu'au 19 mai à la Fondation Henri Cartier-Bresson.
Pour ma génération, comme celle d'Angélie, des jeunes photographes des années 60, après-guerre, tout ça, Ouija est notre maître. Oui. Plus que Capa ou plus que Cartier-Bresson. Et j'aurais pu le rencontrer. Et ça, je m'en veux de ne pas avoir demandé. Quelque part, quand t'as 18 ans, que tu vas à New York, et c'est ton premier voyage à New York, là, t'es là, bah oui, et puis il y a les sirènes et tout, et tu t'attends à voir Ouija arriver, là, comme ça, avec un appareil photo.
L'hommage de Raymond Depardon au photographe américain Ouija. Nous sommes donc à New York au milieu des années 30. Usher Félix se trouve un pseudo Ouija et devient photoreporter. Pendant 10 ans, il passe ses nuits branché sur la radio de la police new-yorkaise pour arriver en même temps sur les lieux des crimes, meurtres, arrestations de gangsters, incendies, accidents de la route. Il photographie tout et vend au petit matin ses clichés aux titres de tabloïds qui sont en plein boom. Ouija n'oublie pas de se retourner pour saisir aussi le regard des spectateurs de ces faits divers. Les badauds sont au spectacle. Cette exposition, Autopsie du spectacle, nous fait aussi découvrir l'autre corpus de son œuvre. Quand à la fin des années 40, il quitte New York pour Hollywood, la machine à rêve, les soirées mondaines, les célébrités qui défilent tout en apparat. Là aussi, il déclenche et capture Monroe, Reagan, De Gaulle, Chaplin, les Kennedy, photographie qu'il va déformer grâce à toute une série de trucages pour critiquer les puissants et dénoncer la société du spectacle. Ce sont donc ces deux corpus réalisés par le même photographe, Ouija the Famous, comme il signait lui-même ses clichés, que souhaite réconcilier cette exposition de la Fondation Henri Cartier-Bresson, a-t-elle atteint son objectif, Stéphane Coréard ?
Bah oui, vous écoutez, puisque vous avez l'air de souscrire avec enthousiasme au projet de l'exposition.
Je le présente.
Tel qu'il est effectivement énoncé par le commissaire de l'exposition, qui est le directeur de la Fondation. Déjà, le titre est curieux, Autopsie. Pour moi, ça supposerait que le spectacle est mort. Or, quand on visite l'exposition, on voit le contraire. D'ailleurs, la dernière salle, ou la dernière chose qu'on voit, c'est un miroir déformant dans lequel les visiteurs sont invités à réaliser leurs propres selfies, à les partager sur Instagram avec les hashtags appropriés. Alors, j'ai vérifié ce matin, il n'y en a pas un seul.
Donc, ah, mais moi, j'ai pas compris.
Les visiteurs sont un peu moins, ont plus dépassé le stade spectaculaire, effectivement, que le commissaire de l'exposition, qui, lui, effectivement, proclame que Ouija aurait critiqué la société du spectacle avant l'heure, je le cite, en tout cas bien avant que Guy Debord ne la théorise. De ce point de vue-là, l'exposition, à mon avis, s'avère extrêmement faible et pas du tout convaincante. Elle est divisée en trois sections. Hein, c'est très simple pour s'y retrouver, même un enfant peut le faire, puisque la première section est sur les murs sont noirs, la deuxième les murs sont blancs, la troisième les murs sont argentés. Donc c'est trois ensembles bien distincts, trois périodes aussi distinctes dans la production de Ouija, vous l'avez dit. La première c'est les meurtres et faits divers, c'est finalement moins de 10 ans, hein, je crois que les photos là sont datées entre 1936 et 1943. La deuxième ce serait le sas, la salle blanche, c'est les spectateurs, effectivement. Là c'est encore plus court, 43-45, vraiment une charnière. Et puis ensuite la période d'Hollywood, effectivement, 43-63, les 20 dernières années de la production de Ouija. Donc si les deux premières sont bien connues, la troisième, effectivement, nous annonce le commissaire, est mal considérée. Et on va voir ce qu'on va voir, il va la réhabiliter. Effectivement, il y a un enjeu parce qu'il y a deux Ouija dans l'histoire de la photographie que personne n'arrive vraiment à faire coller ensemble. Le premier, il serait tragique et documentaire. Et le second, drôlatique et manipulateur. Vous l'avez dit, adepte de tous les trucages. Mais le problème, c'est que cette dernière période, celle qui, à mon avis, concentrait l'enjeu de l'exposition, et aurait mérité beaucoup plus d'ampleur puisqu'il y a moins de 20 photographies, ce qui, à mon avis, est vraiment trop peu pour adhérer à cette thèse.
Et donc on se lasse, enfin peut-être en tout cas, on n'arrive pas à voir effectivement cette pratique du trucage, cette pratique de la caricature. Corinne Rondeau, ça vous a marqué aussi comme
oui,
Stéphane ?
Oui, je partage le point de vue de Stéphane. Je suis, enfin, je dirais qu'on a quand même beaucoup d'informations sur cet artiste aujourd'hui. On peut dire que même le catalogue est beaucoup plus, il donne davantage que l'exposition grâce à des textes qui nourrissent toute la marge, les archives. Lorsqu'il fait ses premiers pas dans la photo, son chef de l'iconographie lui dit faut voir Daumier, c'est-à-dire aller vers la critique, aller vers la caricature. Donc je veux dire, la caricature, c'est pas les photos caricatures des années Hollywood, c'est bien avant. Ce regard, il est bien avant. Il faut aussi lire Ouija par Ouija, c'est-à-dire l'autobiographie qui vient d'être éditée à la Table Ronde, qui est absolument formidable, puisqu'on s'aperçoit que Ouija partage la même vie que ce qu'il photographie, c'est-à-dire la misère. Il part à 18 ans de la maison, à 14 ans, il a le déclic de la photographie de rue, parce qu'en fait, il va travailler déjà avec... parce qu'à l'époque, vous avez des marchands ambulants. Et en fait, quand vous avez un marchand ambulant qui vend des petits trucs, c'est pas un problème. Si vous voulez vendre un piano, une pierre tombale ou quoi, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, ils font de la publicité avec de l'image. Donc, il commence à la photographie commerciale. Il est déjà, s'il faut rappeler le spectacle, il faut rappeler qu'il est déjà là-dedans. Et puis ensuite, ça va pas marcher comme il veut. Même, à un moment donné, il a un poney tous les week-ends pour faire des photos avec des enfants sur son poney. 10 semaines de météo pourrie, il perd, il a pas les moyens, il va être serveur, puis il va claquer la porte, puis il va fabriquer des biscuits, il va travailler dans le bâtiment, il vit dans le Bovary, il sait pas quoi manger, il sait pas où dormir, et puis il veut toujours apprendre. Il dit, moi, ma seule école, c'est la curiosité. Donc vous avez une... Et alors l'autobiographie, faut vraiment y aller, parce que le type est totalement désinhibé. Je veux dire, voilà, il vous écrit, la première fois qu'une femme m'a appelé chérie, c'était avec une prostituée. Toute sa vie se fait dans la marge de la vie, en même temps qu'il est à Hollywood à un certain moment. Mais je veux dire, aujourd'hui, avoir des éléments qui sont de l'écriture, il a autant écrit qu'il a produit des images de différents registres, et que par ailleurs, on aurait pu avoir une exposition, au lieu de la faire ultra classique, didactique, faut dire que la Fondation Henri Cartier-Bresson devrait avoir un peu plus de peps, moi, de mon point de vue, on aurait pu mettre des pavés de sa propre histoire, et là, on remettait en perspective la dimension du commerce. Je veux dire, quand on sait, vous savez que, bon, Ouija signifie, c'était le nom des plaques pour communiquer avec les esprits. Puisqu'on dit que Ouija, alors il se donne ce surnom, parce qu'en fait, on dit, mais en fait, vous donnez l'image avant qu'on ait l'information. Donc on a estimé que c'était un médium, un voyant, etc. Sauf qu'en fait, quand vous lisez sa bio, le mec vous dit, en fait, on savait où ça allait avec la radio. Ils avaient une ambulance, ils faisaient croire qu'ils étaient là pour soigner les gens. Or, le photographe, alors qu'il n'est pas encore photographe, c'est un très bon développeur et tireur, parce qu'il commence avec la technique. Dans l'ambulance, il tire la photo et il l'amène tout de suite. Voilà comment la manipulation est déjà là, et elle va courir, Et puis, quant à, je veux dire, la biographie, et après j'arrête, la biographie, quand vous la lisez, et qui part à Hollywood au moment où, en 47, le marcartisme monte, alors qu'il fait partie de deux journaux qui sont des pratiques documentaires orientées de gauche,
dans les milieux de gauche
pour
ouais.
les classes ouvrières, c'est pas par hasard non plus qu'ils se disent, mon livre Naked City est super, je suis super connu, je vais à Hollywood. Enfin, il y a du politique chez Ouija. Et là, vous avez une exposition qui est, alors on vous fait une photographie de lui derrière les barreaux, et puis à la fin, on le voit déformé. J'ai fait la boucle. Et moi, j'ai envie de dire, soyons sérieux, deux minutes, quoi.
Il faut pas l'énerver, Corinne Rondeau. Stéphane Coréard, sur le personnage, sur son humour, la satire aussi, qu'on voit, en fait, effectivement, dès le début, puisqu'on voit aussi des autoportraits de lui,
c'est de la satire, c'est peut-être aussi du cynisme. Je pense qu'on y reviendra dans le sens où, effectivement, il se représente en gangster, hein, il y a la photographie anthropométrique, il est dans un fourgon, il est derrière. Mais il est toujours avec son appareil photo. Donc, il rappelle quand même toujours qui il est. Et lui, il sourit fièrement à la caméra, alors que finalement, ce qui frappe, c'est de voir que tous ces gens qui sont arrêtés, qu'on voit justement dans les fourgons, dans les prisons, etc., eux, ils se cachent le visage. Ils se cachent le visage avec un journal, avec un chapeau, avec un mouchoir, avec ce qu'ils ont. Lui, il évidemment, il joue des codes, si vous voulez, mais en même temps, il met rien vraiment en jeu là-dedans, tel qu'on le voit, en tout cas, dans les photos. Je suis d'accord avec Corinne que le catalogue donne des clés de lecture beaucoup plus intéressantes. Mais l'exposition, effectivement, est sans doute trop, cherche une sorte de point d'équilibre qui du coup la rend trop statique. Je pense qu'il y avait au moins deux choses que j'ai trouvé des pistes passionnantes mais que l'exposition n'exploite pas à fond. D'abord, effectivement, ça m'est venu en voyant que dans tous ces corps, ces cadavres, ces incendies, il y a toujours l'omniprésence de la typographie publicitaire, des fragments d'affiches, des néons, etc. Et on voit que cette ville, en fait, est un centre commercial géant à ciel ouvert. Et là, je trouve que c'est très intéressant parce qu'on est dans cette période après la crise de 29 où le capitalisme va justement se renforcer jusqu'à devenir fou. Et on sait que l'économiste Keynes disait que la pulsion de mort prend la forme de l'amour de l'argent. Et là, il y a un point de rencontre, justement, entre cette société capitaliste et ces scènes sanglantes, qui est absolument incroyable. Et il y a notamment une photographie, par exemple, d'un incendie dans un immeuble dont tout le haut est en flammes. Et il y a écrit au milieu un slogan qui est « Simply add boiling water », ça veut dire « ajouter juste de l'eau bouillante ». Ce qui, évidemment, sur un incendie, paraît absolument incroyable. Et puis l'autre chose qui, je trouve, est totalement sous-exploitée dans l'exposition, c'est son rapport à l'histoire de l'art. Il y a une photographie notamment qui s'appelle Murder Victim vers 1940 et qui est recadrée de manière excessivement horizontale, et c'est Manet, c'est le torero mort de Manet. Le clin d'œil est absolument évident, la vue est inversée, et on voit à la fin aussi des portraits de Dali, mais on sait par exemple qu'il était très proche de Warhol. Il n'y a aucun portrait de Warhol dans l'exposition, même si la dernière partie est en peinture argentée, que Warhol a utilisé ses photographies d'accidents de voiture pour Disaster, etc. Et tout ça est totalement évacué malheureusement.
Mais c'est dans le catalogue, le catalogue est génial. Je rappelle donc Ouija, autopsie du spectacle, c'est jusqu'au 19 mai à la Fondation Henri Cartier-Bresson. Le catalogue est disponible. Et puis cette autobiographie dont vous avez parlé, Corinne Rondeau, Ouija par Ouija, paru aux éditions de la Table Ronde. Merci à tous les deux. Corinne Rondeau, vous enseignez l'esthétique et la science de l'art à l'Université de Nîmes. Stéphane Coréard, vous êtes critique, commissaire d'exposition et directeur artistique de la Galerie Love & Co à Paris. Toutes les références sont sur le site de France Culture à la page de l'émission.
France Culture, l'esprit d'ouverture.